Vous êtes à l'écoute de l'émission Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal. Antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. L'Épître aux Hébreux expose les raisons pour lesquelles la seconde alliance du Nouveau Testament est de loin meilleure à la première, à l'Ancien Testament. La loi, venons-nous de lire ensemble, n'a rien amené à la perfection. Le livre des psaumes dit quant à lui, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Il est toutefois évident que cette perfection est limitée au but qui lui était assigné. Cette limitation de la loi première se constate en considérant l'impossibilité qui existait pour l'être humain d'être parfait en dehors du pardon. Et chacun sait que la rémission absolue ne pouvait être accordée par la loi. La lecture de Galates chapitre 3 et verset 10 nous fournit une explication à cette incapacité qu'éprouvait l'être à atteindre cette perfection exigée par la loi. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « maudit » et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, c'est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi, or la loi ne possède pas de la foi. Mais il dit, celui qui mettra ces choses en pratique, vivra par elles. En ce qui concerne la question du pardon, Dieu avait ordonné par Jérémie que la nouvelle alliance, elle, offrirait un jour à l'homme un pardon total, définitif. Dieu déclare au prophète, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Le Nouveau Testament constituerait donc une alliance de loin meilleure, car il ferait intervenir dans la vie de l'homme trois éléments vitaux, assez nébuleux, et qui jusqu'à présent ne faisaient que vaguement se dessiner dans notre esprit. Le pardon, la miséricorde et la grâce. Autre raison. La prêtrise de l'Ancien Testament allait devoir céder la place à quelque chose qui, dans sa conception, allait bouleverser une religion structurée à l'extrême et dont les traditions et les multiples règles étaient devenues par trop pesantes. Lors d'une réunion à Jérusalem, Pierre parle de l'ensemble de ces choses en les qualifiant de joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter. À tout cela s'ajoute une autre marque de la nouvelle alliance sur l'ancienne supériorité, dit Hébreux chapitre 7, versets 20 à 25. En effet, dans celle dont Jésus fut le médiateur, continue-t-il, Dieu est intervenu par un serment. Sous l'ancienne alliance, les prêtres ont été établis dans leur fonction sans un seul serment, mais lorsque Jésus a été consacré prêtre, Dieu lui-même prête un serment. En effet, l'Écriture dit, le Seigneur l'a juré, et jamais il ne reviendra sur sa parole, tu es prêtre pour toujours, comme Melchisédek. Voilà pourquoi l'alliance qui a Jésus pour garant est supérieure à l'ancienne. Il existe encore une autre différence, continue la Bible. Les prêtres de la première alliance sont très nombreux. Ils doivent se succéder constamment les uns aux autres, parce qu'ils meurent. Ils ne peuvent donc pas assurer leur fonction en permanence. Mais Jésus est éternel. Il possède un sacerdoce perpétuel qui ne peut être transmis à personne d'autre. Voilà pourquoi il est toujours en mesure de sauver parfaitement et à jamais ceux qui viennent à Dieu par son intermédiaire, parce qu'il vit éternellement, il peut toujours intervenir en leur faveur auprès de Dieu. Sous l'ancienne alliance, le prêtre agissait comme un entre Dieu et ceux qui désiraient accéder à lui. Ils dépendaient eux-mêmes entièrement du grand prêtre qui seul pouvait offrir pour eux les sacrifices d'animaux lors de la fête annuelle des expiations. Un certain climat d'incertitude, d'insécurité même, flottait dans l'air lorsque le grand prêtre ou souverain sacrificateur, celui seul par qui ils avaient accès à Dieu, mourait en cédant ainsi la place à un autre lévite. Mais notre Sauveur fait partie d'un sacerdoce perpétuel, ce qui signifie qu'il vivra toujours afin d'intercéder pour nous. En plus de cela, le grand prêtre de la Nouvelle Alliance est toujours en mesure de sauver parfaitement et à jamais ceux qui viennent à Dieu par son intermédiaire. Pouvait-on en dire autant à propos des prêtres sacrificateurs de l'Ancien Testament? Parfaitement signifie totalement, complètement dans le cas qui nous occupe. C'est par son sang qui nous est accordé que le pardon de tous nos péchés passés est là. C'est par son sang que nous restons purs, en nous laissant diriger par la lumière de la vérité de Dieu. L'apôtre Jean nous le dit. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Les prêtres de la première alliance étaient-ils à même de pouvoir pardonner le péché et de sauver complètement l'homme de ses péchés? Si oui, pourquoi offraient-ils sans cesse leur sacrifice? Pourquoi les gens qui venaient pour être purifiés par le moyen de sacrifices semblants d'animaux n'étaient-ils pas rendus parfaits? Pourquoi ne se réjouissaient-ils pas d'avoir enfin une conscience purifiée de tout péché? Les réponses à ces questions sont traitées dans l'Épître aux Hébreux. Et par elles, nous voyons d'emblée que le Nouveau Testament de Christ est bien la meilleure dispensation. Il y dit notamment, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Par ailleurs, notre souverain sacrificateur est apparu afin que nous soyons sanctifiés après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Non seulement le Nouveau Testament est-il meilleur que l'Ancien à cause du pardon qu'il offre et l'avocat qu'il fournit, mais il est encore meilleur pour l'espérance qu'il inspire. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Mais il y a maintenant l'introduction d'une meilleure espérance de la Bible par laquelle nous nous approchons de Dieu. L'espoir de tout Israélite dans l'Ancien Testament était que le Messie apparaîtrait un jour pour délivrer les hommes de l'emprise du péché. Notre espérance de ce côté-ci de la croix, sous le Nouveau Testament, est basée sur le fait que Christ surgira du ciel avec sa vie exempte de péché, afin que nous soyons sauvés éternellement. Hébreux chapitre 9, verset 28, dit bien que Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. L'apôtre Pierre s'écrit avec éloquence et enthousiasme en qualifiant les chrétiens de « vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps ». Ce salut, dit-il encore, est un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. Il n'est par conséquent pas étonnant de voir l'auteur de l'Épître aux Hébreux affirmer que cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, c'est-à-dire à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Si notre espérance est vraiment entrée où Jésus se trouve, alors il ne peut faire aucun doute que nous serons sauvés éternellement dans les cieux. Cette vérité fondamentale existera encore, alors que toutes les théories matérialistes et imaginaires à la fois auront disparu depuis très longtemps. Dieu a donné à l'humanité, par le truchement de son Fils unique, un Nouveau Testament. Mais afin de saisir toute la portée d'une libération totale du péché, l'homme doit se conformer au schéma cela du salut enseigné par Jésus-Christ, de manière à vivre d'une façon paisible, heureuse et agréable à Dieu. On ne peut que suivre ce que dit le Nouveau Testament de Jésus, que le monde serait beau si chacun voulait se conformer à la douce volonté de Dieu. Jésus ne dit-il pas, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Comme vous avez pu vous en apercevoir, nous avons un immense respect pour la parole de Dieu en général et pour le Nouveau Testament en particulier. Peut-être vous êtes-vous demandé qui nous sommes. Je vais essayer de vous le dire très brièvement. Nous ne sommes pas une nouvelle ou une ancienne secte. Notre nom est tout simplement celle de chrétiens, ni plus ni moins. En Romains, chapitre 16, verset 16, il est dit « Toutes les églises du Christ vous saluent ». Et voilà comment nos assemblées locales s'appellent. Il n'y a donc pas lieu de nous confondre avec les mormons, adventistes, scientistes, chrétiens, témoins de Jéhovah, antoinistes, luthériens, calvinistes, rosicruciens, bahamistes, pentecôtistes, armstrongistes et autres spiritistes. L'organisation de l'Église de Christ suit, elle aussi, le modèle biblique. Chaque assemblée locale, et peu importe où elle se situe, est autonome, absolument indépendante de tout contrôle extérieur. Christ est son chef, et la Bible sa règle de vie. Cela pourrait vous paraître irréalisable, mais il n'en est rien. Il suffit de lire le livre des Actes pour se rendre compte que tel était bien le modèle voulu par Dieu. Le culte chrétien ne constitue pas pour nous une tradition ou une morne servitude. Le premier jour de la semaine, nous nous réunissons dans la joie de nous retrouver et le respect de la parole de Dieu. Cette adoration a pour but d'édifier, d'exhorter chacun des membres du corps de Christ. Nous chantons des cantiques spirituels, prions, prenons la Sainte Seine, écoutons l'instruction de la parole et participons à une collecte librement consentie, sans fixation préalable de montant. Tout ceci découle des instructions de la Bible et non de notre imagination. Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions. Que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie gratuitement car nous ne voulons rien vendre. Qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autres noms et ne sont rattachés ni à une organisation centrale ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ, seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas. Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 3130 Palma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 3130 Palma. À bientôt et à lundi prochain, même heure, que le Seigneur vous garde. Je